À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.
Science, friction. Science Friction, une mission d'Alain Vattier et de Jean Ibanez sur Divergence FM.
Bonjour.
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 Alors nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Mathieu Gallo. On lui demandera de se présenter. Et il a choisi, c'est un petit peu le jeu de l'émission. On laisse à notre invité le choix de l'œuvre. Et il a choisi de présenter, de discuter avec nous sur Transmétropolitane, une bande dessinée en 5 tomes. Alain, tu vas présenter donc les auteurs, mais avant on aimerait que Mathieu se présente. Mathieu Gallo, tu veux bien te présenter?
Alors, très rapidement, moi je suis l'heureux papa de 3 enfants, et puis dans la vie je fais du conseil secteur public local, donc boulot très sérieux.
D'accord. C'est donc ton choix pour cette bande dessinée. Évidemment, on va te demander pourquoi tu as choisi cette bande dessinée. Alain, d'abord, peut-être qu'on va présenter les
auteurs.
Les auteurs, ouais.
Alors, on va d'abord parler de Warren Ellis, hein, donc le scénariste, hein, qui est né en 68. C'est un auteur d'origine anglaise, en fait, hein, qui travaille beaucoup pour les Américains, mais qui est anglais. Il travaille pour Marvel, DC, Avatar Press et bien d'autres. Hein. Il commence en fait en 90 dans le magazine Deadline, hein, où il réalise une petite histoire de 6 pages. Et dans la même période, il travaillera aussi sur une histoire du Judge Dredd. Et c'est surtout en 97 qu'il se fera connaître avec la série justement Transmétropolitane, la série dont nous allons parler aujourd'hui. Pour la suite, il réalisera d'autres séries de très bonne facture aussi, comme Planetary avec John Cassaday au dessin, ou The Authority en 99 avec Brian Hitch au dessin. Pour Warren Ellis, pour Derek Robertson, alors lui c'est un auteur américain, un dessinateur et un encreur américain qui s'est fait connaître surtout par la série The Boys, scénarisée par Garth Ennis, dont il existe d'ailleurs maintenant une série télé aussi que je vous recommande, qui est vraiment pas mal.
Une série télé The Boys.
Ouais, série télé The Boys, c'est une espèce de critique féroce du super-héros, c'est un démontage en règle du super-héros, c'est vraiment très très bon.
Surtout qu'ils connaissent bien tous les deux quand même les histoires de super-héros, je crois qu'ils ont travaillé, non? Pour Marvel
ou... Oui, tout à fait, oui. Que ce soit Warren Ellis ou Robertson, oui, bien sûr. Et Robertson, d'ailleurs, travaille aussi en solo sur des aventures de Conan. Il en a réalisé 2 ou 3 pour l'instant.
Voilà. D'accord.
Pour la présentation des auteurs.
D'accord. Bon, alors Mathieu, c'est la question forcément. Pourquoi cette bande dessinée? Pourquoi tu as choisi? Pourquoi ce choix? Pourquoi cette bande dessinée en particulier? En plus, bon, c'est une bande dessinée en 5 tomes. Enfin,
c'est du lourd.
Ouais. Est-ce que tu savais qu'il y avait 5 tomes quand tu as commencé? Tu savais dans quoi tu te lançais?
Je crois qu'on m'a offert les 5 tomes d'un coup, en fait.
Donc, d'accord.
C'est typiquement le genre de BD sur lequel qui n'est pas dans mon univers habituel. Enfin, voilà, je vais de temps en temps vers du comics, sur du classique, de Batman, etc. Mais voilà, je ne suis pas du tout... ce n'est pas mon cœur de cible habituel. Donc je suis tombé dessus parce qu'on me l'a offerte.
D'accord. Et parce que aussi tu as accroché.
Naturellement. Et après, pourquoi celle-là plutôt que d'autres? C'est parce qu'elle ne ressemble à rien d'autre, justement.
Enfin, ouais. Voilà,
on est sur un univers qui est vraiment complètement à part, dans un genre de SF qui est à la fois classique, mais là qui est traité d'une façon complètement surréaliste. Et puis qui mélange de la SF, du polar, c'est très drôle, voilà, des réflexions sociétales, donc très très riche.
D'accord. Alors... Qu'est-ce que ça raconte, en fait? Pour cette première émission, on va rester concentré, Alain, je crois que c'est ce qu'on a décidé, on va rester concentré sur le premier tome. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, là, les auteurs, dans ce premier tome?
Ben, le retour de Spider-Jérusalem. Alors, qui est
Spider-Jérusalem?
Le comeback. Spider-Jérusalem, qui est en fait un espèce de journaliste gonzo. Hein. Vous savez, les journalistes gonzo, c'est journalistes qui prônent une espèce de subjectivité totale où il faut vraiment s'émerger dans son reportage pour pouvoir en parler, etc. Et lui, il s'était retiré un peu du monde suite aux élections précédentes. Il avait eu un grand succès et il n'avait pas supporté cette notoriété, donc il s'était complètement retiré dans la montagne. Un peu comme Zarathoustra qui quitte le monde. Ouais. Et là, il est poussé par son éditeur de revenir en ville parce qu'il a signé un contrat, il a deux livres à écrire et il le menace de procès s'il ne vient pas écrire ses bouquins. Donc Spider-Jérusalem revient
Parce qu'il est obligé.
Il est obligé, à Central City. Ouais. Voilà. Et il reprend son métier de journaliste. Voilà. L'argument de départ, c'est celui-là.
D'accord.
Dans le premier tome, c'est le retour de Spider-Jérusalem.
Alors sinon, Mathieu, Spider-Jérusalem, qui est journaliste, revient travailler parce qu'il doit respecter son contrat. Et pour pouvoir écrire les livres qu'il a promis d'écrire, il ne peut pas faire autrement que de retravailler en tant que journaliste, puisque c'est à partir de là qu'il a pu avoir du succès pour ses livres. Alors, qu'est-ce qui fait, en fait, Spider-Jérusalem? Qu'est-ce qui fait, dans ce premier tome, c'est quoi ses aventures?
Dans ce premier tome, ce qui est sympa, c'est qu'on a la mise en place de l'univers, dans lequel on va être immergé tout au long des cinq tomes, mais sans pour autant qu'il y ait une histoire complètement construite. C'est-à-dire qu'on est sur des épisodes qui, à chaque fois, je ne sais pas, moi, font une vingtaine de pages et qui nous présentent cet univers de Transmétropolitane avec déjà en fil rouge la mise en place progressive du personnage de Spider-Jérusalem, d'une première assistante et puis tout le cœur du polar d'intrigues politiques et des élections qui seront après développées dans les autres tomes. Donc c'est vraiment un premier tome d'immersion dans ce...
D'immersion, et puis en plus, il y a une très grande diversité, en fait. Hein, parce qu'il va, on peut le dire, Spider-Jérusalem, il est dans l'expérimental. Mm-hmm. Hein, il va expérimenter les différents domaines, etc. Et on va le retrouver dans des mondes différents, même.
Mais c'est un monde... Justement, ce qui le fascine, c'est le multiculturalisme de cette ville. À un moment, il parle de cette ville aux milliers de cultures, et où il en apparaît tous les jours des centaines. Et il dit que c'est vraiment ce qui fait la force de la ville. Il y a vraiment tout cet intérêt pour la pluralité, la diversité, et cette richesse foisonnante, grouillante, et même puante, il dit, mais c'est pas très grave. C'est vraiment ce qui motive Jérusalem.
Oui, et puis... On se rend compte que, en fait, il est le livre, hein, la bande dessinée, c'est pas un point de vue moraliste qui est là pour dire c'est le déclin de la société, voilà, là, c'est... pas du tout. En fait, Spider-Jérusalem, il aime ça.
Oui, mais d'ailleurs, même, il a plutôt tendance à vilipender ceux qui voudraient faire de la morale. Hein,
et, tout à fait.
À leur rentrer dedans, même, parce qu'il est quand même assez violent, il peut être colérique. Ouais. Il a d'ailleurs un flingue qui retourne les intestins et il s'en sert.
Régulièrement, alors, commencer par le président. Voilà. Et pour reprendre ce que tu disais, au début du premier tome, il y a ce petit encart là qui a écrit ceci. Cette ville ne s'est jamais laissée aller au déclin. Elle grandit follement, intensément. C'est un bon gros bordel, brillant, bruyant et puant. Elle tire sa force des milliers de cultures qu'elle abrite et des milliers qui apparaissent chaque jour. Elle n'est pas parfaite, on y vole, on y triche. Ce n'est pas une utopie et je préfère de loin la montagne. Mais la ville vit, je dois bien l'admettre. Donc, Mathieu, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans un point de vue qui est un point de vue moraliste. Et en fait, ce joyeux bordel, si l'on peut dire, ce joyeux chaos dans lequel se trouve Spider Jérusalem, fait son bonheur. Parce qu'il est comme un poisson dans l'eau.
Il s'en nourrit. Enfin, déjà, il la connaît mieux que personne. Et en fait, il l'a quitté parce que sa notoriété l'empêchait de la vivre, et au sens où il l'a toujours vécu, c'est-à-dire au contact des gens dans la rue, pour faire simple.
D'accord.
Donc, et c'est ça qu'il avait perdu, et c'est ça qu'il a principalement poussé à l'exil. Et d'ailleurs, un autre moment, on va plus loin dans la série, mais voilà, il y a des moments où il se retrouve aussi décroché de ce matériau nourricier-là, et où il se retrouve à nouveau en souffrance. Voilà. Donc, il revient certes contraint par des obligations juridiques, mais de fait, il est heureux. Enfin, il n'est jamais autant heureux que quand il
surtout peut... au début, où justement sa notoriété a un peu passé. Même, parce que quand celle-ci commence à revenir, ça commence à lui peser aussi. Hein. On le voit déjà dans le deuxième tome, quand les gens le suivent derrière, etc., parce qu'ils le reconnaissent, ou tout le monde porte les mêmes lunettes que lui, ça l'énerve. Quoi.
Il n'a pas envie de... Enfin, voilà, il fuit vraiment le fait de devenir un leader ou un
c'est
héros.
C'est ça. Il veut pas du tout qu'on le suive. Il veut pas être un leader. Ouais. Il veut dire la vérité. Il veut que les gens entendent la vérité qu'il a à dire, mais il veut pas être suivi. Quoi.
Oui, et puis il veut pas être une star. Il veut qu'on le laisse tranquille. Alors, oui. Parce qu'à plusieurs reprises, ses fans lui tombent dessus. Et ça, il aime pas.
Non, ça, il aime pas du tout.
Alors. Puisqu'on y est, on pourrait présenter donc les personnages.
Ben, on vient de présenter Spider, je crois.
Ouais, voilà. Alors Spider, le monde de Spider, ça va être déjà le pour qui il y a son patron, celui pour qui il travaille. Enfin, c'est pas le patron du journal, mais c'est
le rédacteur en chef.
Rédacteur en chef, Mitchell Royce, c'est ça?
Oui.
Hein, donc ce personnage-là, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Je ne sais pas trop quoi en dire, Mitchell Royce. C'est un pragmatique. Je pense qu'il a pas mal d'admiration aussi pour Spider Jérusalem. Parce
c'est son premier fan.
Oui, je pense que c'est son premier fan, même s'il est tout le temps en train de hurler sur lui, de l'engueuler, de le harceler pour qu'il produise ses papiers. Mais il est prêt à vraiment tout faire pour aider ou protéger Spider Jérusalem. C'est un ami fidèle, quoi. C'est vraiment son seul ami, peut-être même.
Oui, d'ailleurs, quand il débarque, quand il revient, il croit qu'il est prisonnier. Il veut le libérer.
Oui.
C'est la première scène où il est encore le hirsute et poilu, puisqu'il va subir une métamorphose, en fait.
Oui, un accident de douche.
Voilà, où il va perdre tous ses cheveux, tous ses poils. Donc, il y a Mitchell Royce. Il y a ensuite celle qui va devenir son assistante, Shannon Yarrow.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut dire, Mathieu, de Shannon Yarrow, hein, la première assistante, en fait, de Spider Jérusalem? Elle est comment? Comment on la découvre, en fait? Tout d'abord, on la découvre dans une...
Ouais, voilà, il la croise au cours de son premier reportage là, dans un club de striptease de mémoire.
C'est ça.
Voilà. Et bon, comme elle a d'autres qualités...
Elle paie ses études avec des soirées de stripteaseuses.
Voilà. Et de mémoire, comme elle a d'autres compétences, notamment...
Garde
du corps. Enfin, voilà. Elle va être embarquée, non pas tant pour ses compétences journalistiques, mais que, voilà, pour ses compétences pugilistiques.
Surtout dans le deuxième tome.
We'll be right back.
Vous êtes sur Divergence FM et vous écoutez l'émission Science Friction. Nous étions en train de parler d'une bande dessinée qui s'appelle Transmétropolitane et on parlait des personnages. Alors, avant de reprendre donc sur les personnages de Transmétropolitane, la musique là, qu'on vient d'écouter, Alain,
C'était Mongoloid de Divo. C'est un morceau un peu méchant. Je pensais que ça cadrait bien avec la bande dessinée.
Oui, surtout avec le personnage de Spider, Jérusalem, qui est le journaliste un peu fou, gonzo, de Transmétropolitane. Alors voilà, on a parlé de ce personnage de Spider Jérusalem. Alors on y reviendra, mais il y a quand même des choses qu'on pourrait rajouter encore sur Spider Jérusalem, c'est que c'est un personnage qui est à la fois très cruel et en même temps touchant. Il y a cette contradiction chez lui. Mathieu, comment toi tu le perçois ? Tu perçois plus le côté drôle ou plus le côté méchant du personnage ?
Alors pas méchant. Non, c'est ce que tu disais à l'instant là. Est-ce que en rebondissant, je me dis est-ce que c'est un faux méchant ou un faux gentil et non, je pense que c'est un vrai gentil.
Ouais.
Alors c'est sûr que on est de toute façon dans un monde où, complètement amoral. Enfin, il n'est même plus question de. Enfin, c'est hors sujet. Et pour donc, il est capable des pires atrocités, mais en même temps, il y a des raisons, ne serait-ce que pour son équilibre personnel. Mais il y a des vrais moments de gentillesse pure, ouais. Et puis il y a des vrais moments de doute, il y a des vrais moments... Enfin voilà, c'est pas beaucoup de personnages qui pleurent dans cet album, ouais. Il en fait partie.
Oui, mm-hmm. Oui, et puis il a un côté un peu infantile qui est assez touchant. Donc c'est en effet assez surprenant, parce qu'il a l'air sûr de lui, mais en même temps, en effet, il doute. Donc Spider Jérusalem est un personnage assez instable, assez troublant. Hein. Il n'est pas forcément là où on pense. En tout cas, si je ne me trompe pas, ce que voulait faire Warren Ellis, c'est surtout pas faire un personnage gentil.
Non.
Hein, ouais. Voilà, il ne voulait pas ça. Mais en même temps, même s'il fait un...
Mais c'est quand même un personnage qui a de l'empathie pour ses contemporains. Quoi, voilà. pour les pauvres gens, pour les délaissés.
C'est un anti-héros, mais ouais. qui est dans l'empathie.
Tout à fait.
Hein. Et qui défend toujours... la vérité.
Ah, ça, c'est son grand truc, ça.
C'est le grand... Le
grand truc, Spider Jérusalem. La vérité, malgré tout. Enfin, je sais pas, il a une formule comme ça, contre tout. Enfin, bon, quel qu'en soit le prix, voilà.
Alors, on a parlé de Spider Jérusalem, Mitchell Royce, Shannon Yarrow, la première assistante de Spider Jérusalem. Il y a le chat aussi. Il y a des animaux qui sont importants dans... Non.
Oui, le chat, c'est une drôle de créature qu'il découvre au bas de son immeuble, là, qui est un chat qui a deux têtes, trois yeux, et qui fume des cigarettes russes. Donc, c'est une chatte, d'ailleurs, on apprend après rapidement que c'est une chatte, et qui pisse un peu partout, d'ailleurs, aussi. Hein. J'aime bien pisser, notamment sur le téléphone, quand il appelle Royce, il pisse sur le combiné du téléphone.
Ouais, il y a un côté un peu glauque, un peu crade, toujours, hein, qui est recherché, hein.
Bah dans un appart aussi, il y a toujours des ordures qui traînent. Enfin, c'est pas la maison bien rangée. C'est toujours un peu glauque. Oui. C'est des espèces d'ambiance un peu... Là, on parlait de Blade Runner. Je pense qu'il y a aussi des espèces d'ambiance un peu décomposée. Quoi.
Ouais. Alors, Mathieu, on t'avait demandé de choisir un passage en particulier de ce premier tome et tu as choisi le passage des ressuscités. En quoi il est intéressant ce passage ? Qu'est-ce qui se passe là dans... Qu'est-ce qu'il nous raconte ?
Il est intéressant parce qu'en quelques pages, il flingue le Graal de notre civilisation actuelle. C'est-à-dire la résurrection, la vie éternelle. Quoi. Voilà. Quand on écoute...
Après.
Ce que font notamment tous les GAFA à ce sujet-là, enfin voilà, ils nous promettent une société avec
les immortels,
avec plus de maladies et l'immortalité. Et en trois pages, en fait, de façon très très simple, on retombe sur ce personnage là d'une ressuscité, donc qui effectivement à notre époque,
Marie,
voilà, donc a investi sûrement beaucoup d'argent avec son mari pour pouvoir renaître dans un corps plus jeune, etc.
Dans
une autre époque. Et puis qui, du coup, de fait, oui, effectivement, elle renaît bien. Le contrat est respecté. Mais voilà, elle renaît dans des conditions complètement glauques parce que, quelque part, la question de la technologie n'existe plus là, dans notre France métropolitaine. Il n'y a plus de limite, tout est possible. Ouais. Donc, ressusciter comme ça, c'est, on est dans une opération complètement anodine, voire complètement has-been. Et puis, elle se rend compte en quelques minutes que, naturellement, un, n'était pas attendu, et deux, le monde dans lequel elle revient n'a plus rien à voir. Elle mesure, en fait, elle se rend compte de son erreur de façon assez brutale.
Oui, et que, en fait, son monde à elle, le monde ancien, en fait, par rapport au temps présent que raconte la bande dessinée, ce monde ancien n'a plus de sens dans le nouveau monde dans lequel elle renaît, en quelque sorte.
Là, il n'en reste plus rien.
Il n'en reste rien, et puis ça n'a pas de sens. La bande dessinée raconte ce qu'elle, elle a pu voir dans ce temps ancien, Gorbatchev, Che Guevara, la guerre du Vietnam, etc., etc. Mais toutes ces choses-là, en fait, plus de sens, sont complètement décalées par rapport au monde dans lequel elle arrive, en quelque sorte.
Mm-hmm. Oui, il y a ça. Et puis, effectivement, elle arrive dans un monde qui est devenu incompréhensible. Elle n'a pas les codes, elle ne sait pas de quoi il s'agit. Elle est complètement à garde, quoi. Puis en plus, il n'y a aucune aide. Quand elle arrive là, elle est quasiment laissée à elle-même. On la balance dans une espèce d'immeuble où sont regroupés les ressuscités. L'hôtel des ressuscités. Il n'y a rien qui est fait pour eux, quoi. Et d'ailleurs, ils sont même rejetés par la société. Parce que sur le fameux hôtel, il y a même un truc, c'est retourné dans vos frigos, vos putains de frigos, sur le mur. Donc, ils ne sont même pas acceptés, quoi. C'est un peu des immigrés, quoi. Enfin,
oui, et puis on voit leur regard hagard.
Ils sont sous le choc, oui.
Ils sont tous sous le choc. Il y a une image, on les voit tous sur des lits superposés les uns à côté des autres, avec les yeux exorbités. Et on voit bien qu'ils n'arrivent pas à reprendre, en quelque sorte, vie dans ce nouveau monde.
Et puis ils mesurent l'erreur initiale qu'ils ont.
Qu'ils ont fait.
Ouais. Donc c'est un rêve absolu d'immortalité, en fait.
Oui, et puis ils pensaient arriver dans un monde meilleur, un monde plus juste. Enfin, je pense qu'il y avait aussi tout un côté utopique derrière. Et ils arrivent dans cette espèce de chaos urbain où tout est permis, tout est possible. Ils sont complètement décontenancés, ils n'ont plus aucun repère.
Et ce qui est bluffant, c'est la vitesse à laquelle on arrive à ça. Voilà, c'est pas, on aurait pu raconter cette histoire-là dans un bouquin de 200 pages. Là,
en quelques
cases, c'est une évidence qui nous saute aux yeux. Quoi.
Oui, et puis quelque part, en fait, c'est ressuscité. C'est une espèce de mise en abîme de nous lecteurs, parce que nous, on est projetés dans un temps, le temps...
Du livre.
Oui, le temps du livre qui correspond pas du tout à ce que nous vivons. En fait, l'histoire de Marie, c'est la nôtre quand on débarque dans Transmétropolitane. Il y a un petit peu ce jeu-là avec le lecteur.
Ouais, on est quand même à l'extérieur.
On peut refermer le bouquin.
Oui, oui.
Alors que Marie, elle est prisonnière, elle peut rien faire, à part peut-être se suicider, mais sinon, elle n'a pas beaucoup de choix, quoi.
Elle se cache dans la rue, dans des impasses.
Dans des impasses, oui. Hein,
où il n'y a pas trop de bruit. Hein, parce qu'en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il évoque beaucoup dans Transmétropolitane l'aspect sonore, qu'évidemment, on ne peut pas voir avec les images. Mais l'aspect sonore a l'air extrêmement important. Et c'est quelque chose qui agresse beaucoup Spider Jérusalem et qui ne supporte pas. Il y a cette dimension des bruits perpétuels, etc.
Du bruit, ouais. Mais ça, c'est la grande ville. Hein. Il est bombardé, effectivement, d'informations tout le temps. En plus, surtout dans cette ville-là, qui est une ville aussi marchande, parce qu'il y a plein de pubs partout, enfin, il y a des écrans. Et puis, il y a tous les bruits de la ville, quoi. Les voitures, les gens, les cris, les coups de feu, parce qu'évidemment, ça flaque dans tous les sens. Enfin, c'est un vrai chaos, quoi.
Mais c'est un chaos dans lequel, lui, Spider Jérusalem, se retrouve, en fait.
Oui, tout à fait. Hein?
Parce qu'on parlait tout à l'heure du surréalisme et des pratiques un petit peu des surréalistes, entre autres André Breton dans Paris, mais c'est pas le seul, hein, où en fait ils étaient à la dérive dans la ville. Hein, ils se promenaient, ils se baladaient sans intention, sans but. Alors qu'en fait, Spider Jérusalem, il a toujours des buts. Il sait où est-ce qu'il va, il sait comment faire, etc. on voit bien qu'il est, il est quand même dans sa jungle, en quelque sorte.
Oui, il connaît la ville comme sa poche. Ouais.
Ouais.
Il connaît tous les lieux, il sait où il faut aller, il sait qui il faut contacter. Enfin, c'est son milieu, oui, tout à fait. Il baigne dedans, quoi.
Il est, en fait, c'est là la différence avec les surréalistes, c'est qu'il est, ce monde-là, pour lui, quelque part, est sans surprise.
Sans surprise, je ne sais pas, quand même.
Ah,
hein.
Ouais. Non, il arrive à être étonné.
Il arrive. Ouais.
Il le cherche aussi.
Oui, ça, c'est sûr.
C'est vrai qu'il y a quelques transformations, on en reparlera dans la prochaine émission, qui sont quand même assez étonnantes. Quand les personnages se transforment en nuages.
Oui, en nuages de nanoparticules.
Voilà.
Où ils téléchargent leur conscience. Bon. Oui, on peut tout faire dans ce pays, parce qu'on peut changer d'espèce, on peut changer de matière, parce qu'on passe de devenir quasiment immatériel, quoi. On peut se cloner, il y a aussi cette idée sur l'immortalité aussi, on peut reproduire son propre corps, etc. etc. quoi.
Eh bien, nous reprendrons notre conversation à la prochaine émission, qui portera sur le deuxième tome de Transmétropolitan.
À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.